VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 13 décembre 2022. Avec vous, Eric Manilakiza, voici d'abord le sommaire. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains participent à Washington dans le sommet de trois jours qui a débuté ce mardi. Le Niger mobilise des anciens militaires et gendarmes à la retraite pour soutenir son armée contre des djihadistes. Au moins 55 personnes sont mortes ce mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par de fortes pluies. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa échappe à une procédure de destitution. Première demi-finale du mondial ce soir entre Argentine et Croatie. Une ambiance exceptionnelle attendue au stade de Luseil. Longtemps accusés d'ignorer l'Afrique, les États-Unis déroulent le tapis rouge à Washington pour des dizaines de dirigeants africains. Washington veut mettre les bouchées doubles face notamment à la concurrence chinoise. Les États-Unis se sont engagés dans une offensive de charme pour séduire des partenaires africains, parfois réticents, et mettre la main au portefeuille, prêts à consacrer 55 milliards de dollars à l'Afrique sur trois ans, selon la Maison-Blanche. Ces fonds seront en particulier consacrés à la santé, à la réponse au changement climatique, a souligné ce lundi à la presse le conseiller présidentiel Jack Sullivan. La répartition sera dévoilée dans les jours à venir. Il a assuré que ces financements et plus généralement l'engagement américain ne seraient pas liés à l'attitude des pays africains face à la guerre en Ukraine. Le sommet a donc ouvert ses travaux ce mardi au Convention Center de Washington où se trouve notre envoyé spécial Abdulrahman Dia. Abdulrahman, bonsoir.
Le président Biden se réjouit d'accueillir les dirigeants africains pour ce sommet pour souligner la valeur que les États-Unis accordent à leur collaboration avec l'Afrique pour relever les défis et pour saisir les occasions les plus urgentes à l'échelle mondiale et régionale.
Et au-delà de cette question sécuritaire et de l'investissement, qu'est-ce que les États-Unis attendent du sommet dirigeants États-Unis-Afrique?
Les trois objectifs principaux du sommet sont d'approfondir et élargir les relations diplomatiques entre les États-Unis et les pays africains, d'amplifier les voix africaines dans ces relations et dans leur propre avenir, et pour mobiliser le gouvernement américain, toutes les agences et aussi le secteur privé et la société civile pour traiter les problèmes les plus concernants actuels.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à vous.
C'était donc le porte-parole du département d'État qui s'exprimait au micro de notre envoyé spécial sur place, Abdulrahman Dia, que nous allons retrouver dans l'édition de 18h30. Le sommet de Washington intervient dans le sillage d'une nouvelle stratégie Afrique dévoilée l'été dernier et annonçant une refonte de la politique des États-Unis en Afrique subsaharienne pour y contrer la présence chinoise et russe. Près d'une cinquantaine de dirigeants africains participent dans ce sommet de trois jours, le second du genre après celui organisé il y a huit ans, en 2014, sous la présidence de Barack Obama. L'Afrique produit moins de 4% des émissions mondiales et subit durement les effets du réchauffement de la planète par l'insécurité alimentaire, l'intensification des conflits et des phénomènes météorologiques plus violents. La COP27 qui vient de s'achever en Égypte a débouché sur un accord prévoyant que les grands émetteurs de gaz à effet de serre compensent les pays pauvres. Mais apparemment, il restait beaucoup à faire. Ouba Abdi fait le point depuis Nairobi. Le récit avec Michel Joseph.
Le bétail meurt. Les enfants souffrent de malnutrition. Il y a la sécheresse et la famine dans la corne de l'Afrique et de graves inondations en Afrique de l'Ouest. Les effets du changement climatique sont visibles sur tout le continent. Enoch Kimita, de l'Association kényane des ressources hydrauliques, ou Kenaulwa.
En ce qui concerne la sécheresse, certaines communautés, en particulier dans le nord du Kenya, ont perdu leur bétail en raison des périodes de sécheresse que nous connaissons actuellement.
Selon l'ONG Save the Children, plus de 3,5 millions d'enfants kényans ne seront pas scolarisés lorsque les écoles vont rouvrir en janvier 2023 en raison de la sécheresse. L'Autorité nationale de gestion des catastrophes prévoit qu'1,6 million d'enfants supplémentaires risquent d'abandonner l'école lors de la réouverture des écoles l'année prochaine. 75% des émissions de gaz à effet de serre proviennent des pays du G20, dont les principaux émetteurs sont les États-Unis et la Chine. Les responsables de la protection de l'environnement demandent à ces pays de faire davantage pour résoudre le problème qu'ils ont largement contribué à créer. Mitika Mwenda, directeur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique.
The US government is a critical stakeholder in all the efforts.
Le gouvernement américain est une partie prenante dans tous les efforts de lutte contre le changement climatique en tant qu'émetteur de premier plan. Les États-Unis sont censés prendre leur juste part d'efforts pour réduire ces émissions et fournir des fonds suffisants en fonction de leur contribution au réchauffement de la planète afin de s'assurer que ces fonds soutiennent les communautés, en particulier en Afrique, et qui souffrent réellement des impacts d'un problème qu'elles n'ont pas causé.
Selon les experts, l'Afrique attend des États-Unis qu'ils proposent un accord pour compenser l'impact du changement climatique. Enoch Kimita, spécialiste de l'eau douce.
Je m'attends à ce que les États-Unis, par exemple, dans le cas du Kenya, parviennent à un accord et conviennent des domaines dans lesquels nous sommes convaincus qu'ils doivent indemniser le Kenya pour surmonter l'impact du changement climatique.
À l'heure où les catastrophes liées au changement climatique continuent de toucher des millions d'Africains, ce sommet est l'occasion pour les États-Unis de montrer leur leadership dans la lutte contre la menace mondiale du changement climatique. Mitika Mwenda, directeur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique.
C'est bien que le président Biden essaie de définir et de positionner l'Amérique dans l'orientation géopolitique actuelle. C'est très positif. Nous voulons vraiment voir des actions très concrètes définies par nous dans un cadre multilatéral. Bien sûr, des accords vont être conclus, mais la question est de savoir s'ils le seront dans la limite des moyens, des aspirations et des priorités du continent africain et des personnes qui sont en première ligne de la crise climatique.
Après les nombreuses promesses faites lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh, tous les regards sont tournés vers Washington pour voir quelles solutions vont sortir de ces 3 jours de discussion.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Niger a lancé lundi à Niamey une opération de mobilisation de 1000 anciens militaires et gendarmes à la retraite depuis 5 ans au moins, en soutien à l'armée qui combat la violence djihadiste sur plusieurs pans de son territoire. Ces hommes n'iront pas directement au front, mais seront destinés à sécuriser des sites importants comme des projets de développement en zones sensibles. Au moins 55 personnes sont mortes ce mardi à Kinshasa dans des inondations provoquées par de fortes pluies, selon un bilan provisoire communiqué par le général Silvano Kasongo, chef de la police de la capitale de la RDC. Ces inondations ont également causé d'importants dégâts matériels. Le Parlement sud-africain a voté ce mardi au Cap contre le lancement d'une procédure de destitution visant le président Cyril Ramaphosa, embourbé dans un scandale depuis des mois. 214 députés ont voté contre et 148 pour, a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale. La Somalie échappe à une famine généralisée grâce à l'intensification de la famine de la réponse humanitaire, mais des gens meurent de faim et la situation pourrait empirer dès avril 2023, a alerté l'ONU. L'UNICEF a lancé ce mardi un appel de fonds de 2,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins croissants des enfants au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La conférence internationale de soutien à l'Ukraine organisée à Paris a permis d'engranger près d'un milliard d'euros pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver dans un pays aux infrastructures ravagées par les frappes russes. Le journal de la Coupe du Monde ce soir avec Yacouba Ouédraogo. Argentine-Croatie croise ce soir. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Deux ballons d'or sont en mission. Le capitaine croate Luka Modric et celui argentin Lionel Messi. Messi et l'Albi Céleste, deux Coupes du Monde au compteur, 1978 et 1986, mais aucune pour l'attaquant du Paris Saint-Germain qui est à sa cinquième tentative. En face, Modric, ballon d'or 2018, un milieu de terrain de rêve et la possibilité d'atteindre une deuxième finale de Coupe du Monde d'affilée. La seconde demi-finale est prévue pour demain mercredi à 19h temps universel entre le Maroc et la France. Le rêve d'une seconde étoile d'affilée pour la France de Kylian Mbappé passe ainsi par cette demi-finale à frisson contre le Maroc, obstacle inédit et chargé de symboles au Mondial 2022 dans un stade Al Bayt acquis au Lion de l'Atlas, héros de l'Afrique et du monde arabe. Michel Joseph.
Adversaire inédit pour la France. Galvanisé par ses exploits contre les cadors belges, espagnols et portugais, le Maroc mise sur une défense de fer et une attaque rapide, technique et déroutante pour bousculer les Bleus. Première nation africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde pour la première fois, les Lions de l'Atlas ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En tout cas, le coach marocain et ses poulains visent la finale et y croient. Walid Regragui.
On veut aller en finale, on veut gagner la Coupe du Monde. Et ce n'est pas des paroles en l'air. On n'est pas là pour être content juste d'avoir mis l'Afrique en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut qu'on aille plus loin. Peut-être qu'on n'aura plus cette occasion. Donc pour ça, les joueurs, ils sont prêts à tout.
Le maintien de ce rêve en vie passe par un nouvel exploit face aux Français champions du monde qui, pas à pas, ont évacué leur fébrilité défensive, apparue avant le tournoi et surmonté la cascade de blessures qui les a ébranlées. Se hisser dans le dernier carré, l'objectif minimal fixé aux Français, apparaît comme une première victoire. Leur sélectionneur, Didier Deschamps, compte embarquer son équipage jusqu'au bout du voyage, dimanche en finale, mais il est conscient de l'obstacle marocain.
C'est l'équipe qui a le mieux défendu, avec une très bonne organisation, rationnelle, des joueurs de qualité sur le plan offensif, un de bien défendre, de faire mal à tous les adversaires.
Les Lions de l'Atlas s'avancent vers ce duel historique avec une fatigue accrue par une rotation limitée et une prolongation contre l'Espagne en huitième. Un voile d'incertitude entoure plusieurs cadres, blessés et en premier lieu la charnière centrale Naïef Aguerre, Romain Saïf. L'arrière droit Achraf Hakimi joue diminué depuis le début du tournoi. Il est cependant espéré pour un face-à-face très attendu avec son ami au PSG, Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec 5 unités.
Au-delà de l'enjeu sportif, France-Maroc constitue un fragment d'histoire entre deux pays à l'union contrariée. L'emprise de la France au Maghreb avant l'indépendance en 1956 a dessiné des liens de domination et d'amitié mêlés qui rendent ce match si symbolique pour les centaines de milliers de binationaux vivant dans l'Hexagone. À Marseille, les Français d'origine marocaine voient déjà leur pays de cœur en finale de la Coupe du Monde.
On va tomber contre l'Argentine et on va la prendre à la Coupe. 2-1 pour le Maroc.
Je vais tomber contre Messi et Cristiano, mais pas contre la France. La France, je les voyais moi gagner. Mais là, c'est pas pareil. Là, on tombe contre eux, il faut les boxer.
Espérons que ça va être un bon match pour tous les deux. Donc j'espère que le Maroc passera quand même. J'ai toujours un peu plus pour le Maroc, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien la France.
Nadia, elle, est une Française qui réside à Rabat, au Maroc, depuis près de 20 ans.
En fait, je suis partagée entre les deux parce que mon pays d'origine, c'est la France. Mais je vis ici depuis presque 20 ans et mon cœur est ici. Donc pour moi, ça va être vraiment un déchirement parce que je peux pas choisir le camp. C'est comme disait Gad Elmaleh, c'est comme si son père jouait contre sa mère. C'est la même chose pour moi. Donc en fait, je vais dire que le meilleur gagne, quoi. Mais j'ai quand même une petite préférence pour l'équipe du Maroc parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Et que bon, la France a déjà gagné 2 coupes, donc elle pourra bien se passer d'une 3e.
Ce choc Maroc-France à Alcor va se dérouler en présence du président Emmanuel Macron et des milliers de supporters acquis à la cause des Lions de l'Atlas. La compagnie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous. Place au dossier du jour. La loterie de la carte verte, officiellement connue sous le nom de loterie des visas de diversité, est un programme du département d'État américain qui alloue chaque année 55 000 visas de résidence permanente à personnes originaires des pays ayant un faible taux d'immigration aux États-Unis. Un ordinateur tire au sort les heureux gagnants qui sont alors autorisés à s'installer légalement ici aux États-Unis. Thierry Kaoré a rencontré une famille originaire du Burkina Faso qui s'est installée à New York grâce à son programme. Son reportage.
Chaque année, au début du mois d'octobre, le site du Bureau des affaires consulaires du département d'État américain ne désemplit pas. Ils sont des milliers à y tenter de décrocher le fameux sésame de la carte verte afin de s'installer ici aux États-Unis. Et c'est en 2011 que la chance a souri à M. et Mme Diarra du Burkina Faso alors qu'ils venaient juste de célébrer leurs noces. Mariam Diarra explique.
Quand il a gagné, après le mariage, il devait faire 1+1. Bon, comme on était déjà mariés, il était autorisé à ajouter mes dossiers sur ce truc pour que je puisse venir avec lui. Et c'est comme ça. On a fait les dossiers, les documents, tout et tout pour arriver, pour qu'on puisse venir ici.
En 2013, Mariam atterrit à New York et s'installe dans le Bronx, un quartier où l'on retrouve beaucoup d'immigrés africains. Pas de barrière linguistique, elle s'adapte facilement à sa nouvelle vie new-yorkaise.
Je me débrouillais déjà un peu en anglais puisque j'ai fait l'anglais à l'université, j'ai eu le Doc 2 en anglais à l'université. Donc quand je suis arrivée ici, Dieu merci, j'avais des béninoises qui étaient avec moi, qui partaient déjà à l'école et elles m'ont montré CUNY, le site de CUNY, d'aller pour l'application de l'université. Je suis rentrée, j'ai fait l'application, ils ont demandé les dossiers et on a fait venir mon transcript de l'université de Ouaga, tout ça. Et ils m'ont accepté à l'université. Ce qui est bien dedans, c'est que je n'ai pas payé 5 francs.
Quelques années plus tard, elle sera rejointe par son époux. Une famille ainsi réunie, avec 2 enfants nés sur le sol américain. Monsieur Diarra dit que le choix de s'installer aux États-Unis faisait partie de ses objectifs.
Une fois que tu as décidé de tes objectifs de vie et que tu sais que ton environnement ne peut pas t'offrir ça, il faut le faire et c'est vraiment le moyen légal pour immigrer surtout aux États-Unis ici. J'allais dire légalement et comme elle l'a dit, avoir tous les avantages, toutes les opportunités, sauf que tu n'as pas le droit de vote jusqu'à ce que tu obtiennes le passeport.
Comme le programme le prévoit, 5 ans après son arrivée, Mariam Diarra a obtenu la nationalité américaine et son mari est également en phase de devenir citoyen américain. C'est la nouvelle phase d'une vie en changement et le rêve américain qui se réalise pour cette famille.
La diaspora camerounaise représente aujourd'hui plus de 6 millions de personnes, selon les autorités du pays. En majorité hautement qualifiée, peu mettent leurs connaissances au profit de leur pays d'origine, ce qui fait du Cameroun l'un des pays africains concernés par le phénomène de fuite de cerveau. Le reportage à Yaoundé de notre correspondant Emmanuel Julentap.
À Yaoundé, les jeunes étudiants pointent un doigt accusateur sur les terres du continent comme principale cause du phénomène de fuite des cerveaux africains.
Pour accéder dans un boulot ici en Afrique, il faut soit avoir quelqu'un au pouvoir, soit avoir les moyens. Et quand tu n'as pas, même si tu es intellectuel, tu ne peux pas accéder au travail.
Ce phénomène est dû à la corruption qui sévit dans le continent africain, aux mauvaises conditions de vie, à la pauvreté, etc.
À ces raisons, ce jeune chercheur ajoute celles liées à l'histoire des relations entre l'Afrique avec le reste du monde. Un cours de l'histoire défavorable au continent noir.
Ceux qui viennent chercher en Afrique ne recherchent plus simplement la compétence physique, ils sont aussi désormais à la recherche de l'intelligence, qu'on appelle la smart intelligence. Et ça, on a compris que c'est l'intelligence, c'est les idées qui gouvernent le monde.
Le Cameroun est l'un des pays africains qui a une diaspora diversifiée et bien formée. En 2019, le gouvernement a organisé le premier forum de la diaspora camerounaise en vue d'encourager le retour au pays. mais cette incitation n'a pas encore atteint les résultats escomptés.
Je pense, pour ma part, qu'il y a plusieurs choses à faire. L'une des choses, c'est d'abord les conditions salariales qui constituent pour ces locaux-là la principale raison de leur immigration. Il faut également travailler sur la gouvernance locale. Parce que vous allez vous rendre compte qu'un chercheur au Cameroun n'a pas véritablement accès à la documentation dont il a besoin pour mener sa recherche.
D'après ce diplomate, les grandes puissances et les pays occidentaux doivent aussi jouer franc jeu avec leurs partenaires africains pour stopper la saignée des cerveaux.
Il faut donc un nouveau partenariat. Cela en impulsant, par exemple, des appuis au niveau de l'équipement, par exemple, des universités africaines, avec des incubateurs, avec des partenariats donnant beaucoup plus de possibilités en échange d'expertise.
Après avoir suivi un cycle de formation de 7 ans, que des médecins ne soient pas intégrés et qu'ils aient à passer un concours encore pour pouvoir être intégrés.
Le Cameroun a lancé cette année une étude en vue de la création d'un fonds d'appui au financement des jeunes de la diaspora. Emmanuel Jundab pour VOA Afrique, Yaoundé.
Depuis quelques mois, les Béninois se familiarisent avec les motos électriques. C'est une initiative de la société M-Auto, basée au Togo et financée par un fonds souverain indo-africain. Parvenir à créer des emplois et la richesse par des solutions de développement respectueuses de l'environnement, c'est le but visé par la société M-Auto. Comment ces motos sont-elles accueillies au Bénin? Des précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adande.
Présente dans la zone Afrique de l'Ouest depuis quelques mois, la société M-Auto s'est hissée comme la première plateforme de mobilité électrique en Afrique. Alain Point est conducteur de taxi-moto. Il fait partie de ceux qui ont été choisis pour les tests effectués. L'expérience paraît concluante à son niveau.
Vous voyez, c'est les motos que vous voyez. On n'a pas de chaîne, ni couloir, ni bougie, et ni piston et autres. Donc on voit tout cet ordre. Dépend ce qu'on faisait sur les autres motos. Avec ceci, c'est un peu différent.
Blaise Sadio est un indépendant qui a une boutique de téléphonie mobile. Pour lui, les motos électriques n'ont rien à envier aux autres.
C'est une moto qui facilement passe à 80, 85, 89. J'ai pas pu excéder, même avec sur le goudron, les 89. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le sans-bruit et la facilité de rouler ça, quoi.
Selon Tchegoun Bakari, le directeur général de M-Auto, 2000 véhicules électriques ont été mis en circulation entre Cotonou et Lomé. Ces véhicules, selon lui, ont déjà parcouru une distance de 2,5 millions de kilomètres sans la moindre émission de gaz et de fumée. Il souligne que la réaction des consommateurs est la preuve qu'ils attendaient des solutions respectueuses de l'environnement, efficaces et abordables.
Tout le monde parle de transition écologique. Nous, on a voulu apporter une solution qui soit une solution économique, mais qui répondent aussi aux besoins écologiques. Alors, l'impact écologique, il est direct, hein. Vous savez, quand vous prenez une moto thermique aujourd'hui, en termes d'émissions, elle émet énormément. Au-delà de l'émission de carbone, en fait, il y a aussi tout ce qui est émission de particules fines. Et donc, tout ça disparaît lorsqu'on passe à l'électrique, en fait.
M-Auto offre des facilités à tous ceux qui veulent passer à l'électrique à travers des paiements échelonnés.
Ces personnes dépensent aujourd'hui énormément d'argent et nous leur proposons, en fait, en passant à l'électrique, de pouvoir gagner 30 à 40% de plus par jour et donc de réduire la pauvreté.
Avant la mise en service de ces motos, il y a eu la signature d'un protocole d'accord entre la société M-Auto Mobility et le gouvernement béninois. Présente à la signature du protocole d'accord, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Assouma, a réitéré l'intérêt du gouvernement à ce projet.
Bienvenue au Bénin dans cette nouvelle zone économique spéciale qui concrétise l'écriture d'une nouvelle page industrielle de notre pays.
Mais quel avenir pour ces motos dans un pays en proie à des perturbations électriques? Environ 30 centres de recharge sont déjà mis en place. Selon les prévisions, d'ici fin 2022, 300 centres de batterie seront créés afin de permettre à tous ceux qui désirent faire de la mobilité électrique de pouvoir charger leur batterie à tous les kilomètres. Pour l'heure, les motos viennent en pièces détachées et sont assemblées dans une usine. Mais d'ici 2024, elles seront entièrement fabriquées à Cotonou. L'usine est en pleine construction dans la zone industrielle de Cotonou, Gilles Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Washington est le lieu de convergence des leaders politiques, économiques et de la société civile africaine et américaine pour passer au crible les relations entre le continent et l'Amérique. La démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et l'investissement, autant de thèmes au menu de ce sommet est remis au goût du jour par l'administration Biden après une pause durant les années 30. Nous ferons l'état des lieux et discuterons avec nos invités de l'avenir des relations États-Unis-Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
À Dir Dawa, dans l'est de l'Éthiopie, les voyageurs utilisent toujours le chemin de fer franco-éthiopien construit il y a plus d'un siècle par les Français. L'ancienne voie ferrée reste indispensable pour le commerce et le transport, même avec l'arrivée récente d'une ligne moderne construite par la Chine. Deux fois par semaine, des passagers et des marchandises s'entassent dans des wagons datant de 1955 pour effectuer le long voyage de Dir Dawa à Dewele, à la frontière djiboutienne. Les détails avec Dili Diko.
Des grincements métalliques que l'on entend à près d'un kilomètre. Le train centenaire arrive à l'aube et fait trembler la gare de Dir Dawa. Ce chemin de fer, construit par les Français en Éthiopie il y a plus de 100 ans, et ces wagons de 70 ans restent indispensables pour les habitants. La locomotive diesel tracte 4 wagons de marchandises en bois et 2 voitures voyageurs sans éclairage électrique. Ces conditions de voyage précaires ne découragent pas les personnes qui vivent ici. C'est grâce à ce train qu'elles peuvent subvenir à leurs besoins. Ayoub Assofa, directeur de la station de Chénélé, nous en dit plus.
Si ce train s'arrête, le prix des marchandises va augmenter. Les gens peuvent se permettre de vivre ici parce qu'ils trouvent des marchandises comme les pâtes, l'huile et le sucre qui arrivent ici par train.
Mulugeta Kebede, 70 ans, conducteur du train centenaire depuis 4 décennies, ajoute que plusieurs villes ont été créées autour de cette ligne ferroviaire, dont seuls 200 km sur 784 sont encore praticables.
Le chemin de fer a été construit le long des petites villes et des quartiers, et les gens se sont installés à proximité des gares. Il y a encore des endroits où les voitures ne peuvent pas aller.
12 heures de trajet sur des banquettes en bois, une centaine de passagers avec leurs bagages, des marchandises allant de l'est de l'Éthiopie à Dewele, à la frontière djiboutienne. Ici, à Dir Dawa, certains ne sont pas convaincus par le train des Chinois, comme ils l'appellent. Plus cher, il ne s'arrête que dans 3 gares entre Dir Dawa et Dewele, contre 8 pour le train centenaire. Ismaël Kayad, directeur adjoint de la gare de Dir Dawa, explique que les autres moyens de transport sont exclus pour ce tronçon. Il fait partie des rares cheminots qui parlent encore français.
Par rapport au chemin de fer chinois et arsi, il n'alimente pas les villes directement. Il part de Djibouti, il s'arrête à Galilée, puis les gens disent... l'ancien chemin de fer est béni. L'autre, c'est un avion.
Les travaux du CFE, le chemin de fer franco-éthiopien, commissionné par l'empereur Ménélique, ont commencé en 1897 à Djibouti, alors appelée Côte française des Somalies. La ligne a atteint Dir Dawa à Noël en 1902, puis Addis Abeba à l'été 1917. Aujourd'hui, cette partie du trajet n'est plus qu'un lointain souvenir.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Michel Claire-Joseph et à Joselle Morissin pour la réalisation de cette édition et la mise en onde. Merci également à toute l'équipe de rédaction. Eric Manilakidza a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.